Chapitre 13. Napoléon-Joséphine, un divorce pour raison d'État. En ce 25 décembre 1809, le soleil ne percera pas. Les baies du Grand Trianon ruissellent d'une pluie glaciale. Cela fait une semaine déjà que l'empereur s'est installé dans l'ancienne villégiature des rois, une semaine qu'il tourne en rond dans ce qui fut l'appartement de Madame de Pompadour, remise au goût du jour. Il passe ses journées dans le salon des sources, fixant d'un œil morne les flammes qui dansent dans le foyer. Napoléon doute. Il souffre. Pour le déranger le moins possible, l'armée de serviteurs qui l'accompagnent s'est mise en veilleuse. Soudain de l'agitation, des berlines pénètrent dans la cour d'honneur et viennent se ranger devant le majestueux péristyle d'Ardouin-Mansart. C'est l'impératrice Joséphine qui arrive du château de Malmaison, voisin ou presque, avec quelques familiers. Le souverain les a conviés à se joindre à son repas de Noël. Descendent notamment de voiture le vice-roi d'Italie, Eugène de Beauharnais, et la reine de Hollande, Hortense, les deux enfants que Joséphine a eus de son premier mariage. Ce sont Pauline et Caroline Bonaparte, respectivement princesse de Sulmona et reine de Naples, qui font les honneurs, on s'embrasse. L'impératrice sourit comme toujours, mais du sourire le plus forcé, car à la vérité, son cœur est encore plus douloureux, ses pensées encore plus amères si possible que celles de l'empereur, tous deux viennent de divorcer. Pour prendre la mesure de l'événement, il faut se rappeler la place extraordinaire prise par Joséphine dans le destin de Napoléon. Son aînée de 6 ans, elle avait déjà vécu une première vie bien remplie lorsqu'il l'a épousée civilement en 1796. Veuve du vicomte de Beauharnais et rescapée des geôles de la Terreur, la native des îles du temps où martiniquaise elle s'appelait Rose Tachée de la Pagerie, était alors devenue, dans le proche entourage de Barras, une égérie du directoire. Elle avait tout a priori pour faire fuir le jeune général romantique avant l'heure. C'est le contraire qui s'est produit, il s'en est entiché. À la folie. Qu'elle l'ait d'abord trompée, n'a rien changé à la puissance d'un lien talismanique, oui, Joséphine a donné le sentiment souvent qu'elle portait chance à ce soldat devenu premier consul, puis empereur. Pourtant, le bonheur éclatant du ménage Bonaparte s'est assez vite obscurci d'un discret malheur. Hélas pour lui, hélas pour elle, jamais elle n'a pu donner de petits frères à Eugène et Hortense. Joséphine a eu beau soutenir et parfois même guider son mari à chaque étape de son incroyable ascension, jamais elle n'aura pu lui donner d'héritier. Ce qui d'abord fut un souci intime est devenu, à la fondation de l'Empire, un drame dynastique. Et bien que, la veille du sacre, la nouvelle impératrice ait obtenu du pape une union devant Dieu, les liens de ce mariage ont soudain paru à tous de moins en moins indissolubles. Une trentaine de mois avant le Noël si triste, si pluvieux de Trianon, c'est-à-dire à l'été 1807, l'été de Tilsitte, on voit Napoléon rentrer à Saint-Cloud dans un état d'esprit paradoxal. 6 mois plus tôt, sa maîtresse du moment, Éléonore de Noël, a mis au monde un fils, on l'appellera le comte Léon, ce qui ne peut que troubler le père putatif. Or, à peu près au même moment, est entrée dans sa vie une belle comtesse polonaise, Marie Walewska, dont il est maintenant amoureux. Là-dessus, la mort de son neveu Napoléon Charles, fils de Louis et d'Hortense, regardé depuis l'établissement de l'Empire comme son héritier présomptif, le conduit à s'interroger. À Joséphine elle-même, il n'hésite pas à s'ouvrir de, je cite, « la nécessité où peut-être un jour il pourrait se trouver de prendre une femme qui lui donnerait des enfants ». Il ajoute même, comme s'il cherchait à l'éprouver, « si pareille chose arrivait, Joséphine, alors ce serait à toi de m'aider à un tel sacrifice. Je compterai sur ton amitié pour me sauver de tout l'odieux de cette rupture forcée ». On imagine les affres dans lesquelles une telle invite peut plonger l'impératrice, surtout lorsque l'empereur va jusqu'à lui demander de prendre elle-même l'initiative du sacrifice. « J'obéirai à tes ordres », se borne-t-elle à répondre, « mais je n'en préviendrai jamais aucun. » Le ver est dans le fruit. Contre toute attente, c'est un des piliers de l'État, le ministre de la police en personne, qui va pousser dans le sens d'un remariage de l'empereur. Le terrible Fouché s'empare en effet de la question et, partisan de l'union envisagée de son maître avec la sœur du tsar, afin d'entériner le premier traité de Tilsit et, disons-le, d'écarter toute idée de mariage avec une nièce de Marie-Antoinette, perspective inquiétante pour le régicide Fouché, le ministre se permet à Fontainebleau, au sortir de la messe, de retenir l'impératrice dans une embrasure et de lui déclarer que, pour le bien public et la consolidation de la dynastie, elle devrait inciter elle-même le Sénat à réclamer le plus pénible sacrifice pour son cœur. Riposte de la femme outragée, « Avez-vous reçu de l'empereur l'ordre de me faire une aussi triste insinuation ?» L'insolent ayant répondu par la négative, Joséphine se croit sans doute pour un temps hors d'atteinte, mais quelques jours plus tard, Fouché récidive, par écrit cette fois. « Il ne faut pas se le dissimuler, madame. L'avenir politique de la France est compromis par la privation d'un héritier de l'empereur. Comme ministre de la police, je suis à portée de connaître l'opinion publique et je sais qu'on s'inquiète pour la succession d'un tel empire. » Cette fois, Joséphine se précipite dans le cabinet de son époux. Elle exige une explication. Napoléon, bien ennuyé, ne cache pas sa colère envers Fouché, qu'il accuse d'excès de zèle. Le fond de sa pensée est plus ambigu. Dans le mémorial de Sainte-Hélène, Lascaz rapporte cette confidence de l'empereur. « J'eusse renvoyé Fouché sur le champ pour s'être mêlé de ce qui se passait dans mon lit, si cela n'eût paru vouloir rejeter une opinion qu'il m'importait plutôt d'accréditer. » Début 1808, l'impératrice s'est fait sa religion. Elle a compris que son impérial époux ne pourrait indéfiniment se passer d'un héritier à qui transmettre une couronne si chèrement conquise. Elle se languit, soupire en silence, ne vit déjà plus vraiment, en dépit d'apparence qu'elle s'ingénie à ne surtout pas changer. Son humeur paraît stable, son train de maison atteint des sommets. L'inventaire de 1809 conservera le compte de quelques 400 chemises brodées, plus de 150 paires de bas blancs ou roses, environ 700 robes en étoffe, plus de 500 paires de chaussures et un petit millier de paires de gants blancs, pour passer sous silence les dépenses de table, de serre, les folies en joyaux et en œuvres d'art de toutes sortes. Autour de Napoléon, les bonnes âmes s'enhardissent. Fouché, réduit au silence, c'est au tour de son beau-frère Murat de plaider pour un remariage. Le clan Bonaparte, qui a toujours détesté Joséphine, joue sur du velours. Au printemps, voyant la reine Hortense enceinte de celui qui un jour sera empereur des Français à son tour, le souverain se laisse aller à cette remarque saumâtre. « Cela me fait mal de vous voir ainsi, que j'aimerais votre mère si seulement elle était dans le même état. » Or, 18 mois plus tard, c'est Marie Walewska qui, à son tour, porte un enfant de lui, un garçon de surcroît. La naissance de Léon de Noël avait troublé l'empereur, d'autant plus qu'elle n'était sûrement pas la première du genre. Avec la grossesse de sa chère polonaise, s'envolent ses derniers doutes. Ce n'est pas lui qui est stérile, c'est sans doute elle qui l'est devenue. Lui peut, lui doit donner un héritier à son trône pour espérer fonder une dynastie. Le plus tôt serait même le mieux. Une tentative d'assassinat perpétrée contre lui par un jeune Allemand au palais de Schönbrunn à Vienne, en octobre 1809, achève de le convaincre. Que serait-il advenu en cas de succès de l'attentat ? L'empereur repart aussitôt pour la France et fait savoir à sa femme qu'il devrait être de retour à Fontainebleau avant la fin du mois. Joséphine s'est mise en route de son côté, la mort dans l'âme. Lord Abrantès racontera qu'un jour, apportant des fleurs à sa marraine, elle la trouve en pleurs, désespérée de ne pouvoir donner à son mari ce qu'il attend plus que tout. Ce n'est pas sur sa couronne menacée, sur sa position officielle en péril que Joséphine verse des larmes, c'est sur un amour qu'elle pressent perdu. Dieu m'est témoin que je l'aime, plus que ma vie, bien plus que ce trône. On a beaucoup raconté les retrouvailles glaciales de Fontainebleau, prélude au plus célèbre divorce de l'histoire. En rejoignant celui qui, alors, est encore son mari, Joséphine constate que l'on a fait murer la communication familière entre son appartement et celui de l'empereur. On ne saurait être plus explicite. Le soir du jeudi 30 novembre, racontera André Castelot, le dîner est affreusement silencieux. Joséphine a pleuré toute la journée et, pour cacher ses yeux rougis, s'est coiffée d'un grand chapeau blanc dont la jugulaire est nouée sous le menton. On entend, rapporte le valet de chambre Constant, que le bruit uniforme des assiettes apportées et remportées, tristement varié par la voix monotone des officiers de bouche. L'heure est venue des explications. La raison d'État et la consolidation de ma dynastie veulent que j'aie des enfants, martèle Napoléon d'une voix sourde. Tu as les tiens, mais quand je t'ai épousé, tu n'étais plus capable d'en faire. Il n'est point juste que tu me prives de ce que désirent tous les hommes. Scène violente de Joséphine qui, une dernière fois, hurle de désespoir et supplie que l'on veuille bien la garder. Mais elle sait au fond d'elle que tout est maintenant décidé. Elle partira avec de beaux châteaux et une dotation énorme de 5 millions par an, preuve des scrupules de l'empereur. Le 15 décembre de cette fatidique année 1809, fatidique en tout cas pour le couple impérial, on a exfiltré des Tuileries pour les porter discrètement jusqu'à Malmaison, les malles si pleines, si riches de celle qui déjà n'est plus qu'impératrice douairière. Apparition glaçante, précédant sa fille de quelques pas, Joséphine vient de fouler le haut perron lustré par la pluie. Elle est au bras de sa dame d'honneur. Étouffant un sanglot, elle se hisse avec grâce dans l'élégante voiture dorée qui porte un joli nom, Opale. Elle fait baisser les stores, le fouet claque, le palonnier grince à peine, la voiture s'éloigne sous des trombes d'eau. Plusieurs fois par jour, un empereur en larmes écrira lettre sur lettre à celle qu'il s'est fait la violence d'éloigner. On me dit que tu n'as plus de courage depuis que tu es à Malmaison. Ce lieu est pourtant tout plein de nos sentiments qui ne peuvent ni ne doivent changer, du moins de mon côté. J'ai bien envie de te voir, mais il faut que je sois sûr que tu es forte et non faible. Je le suis, faible, aussi un peu, et cela me fait un mal affreux. Comme si le ciel s'était accordé aux pleurs de Napoléon et de Joséphine, il ne cessera de pleuvoir jusqu'à Noël, jusqu'à ce repas sinistre du Grand Trianon qui, une dernière fois, réunit la petite famille, comme au bon vieux temps. Bientôt, Joséphine prendra la route de la Normandie et du château de Navarre, près d'Évreux, dont l'empereur lui a fait don, présent de séparation. Entièrement redécoré, avec un luxe inouï par l'architecte Berthaud, il abritera une sorte de cour impériale en réduction, cour fastueuse, monotone et vaine, où l'on cachera poliment des bâillements entre une partie de billard et une de tric-trac. Quant à Napoléon, au matin du 26 décembre 1809, c'est au bras d'une bien jolie dame, Christine Matisse, qu'il regagne les Tuileries. Il reviendra au Grand Trianon 6 mois plus tard, le 28 juin 1810, avec l'impératrice, l'autre impératrice, la nouvelle, l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Louise. De ce mariage, nombre d'historiens datent les revers de fortune de Napoléon. En dépit de la naissance d'un héritier, le roi de Rome, le 20 mars 1811, la suite de l'épopée se révèle en effet calamiteuse. Campagne de Russie en 1812, décisive défaite d'Espagne et d'Allemagne en 1813, terrible campagne de France en 1814, poussée à l'abdication en avril de cette année-là, l'ancien empereur devient pour un temps souverain de l'île d'Elbe, mais son débarquement en France et sa reprise du pouvoir au printemps 1815 se soldent par la défaite de Waterloo le 18 juin et un départ sans retour pour Sainte-Hélène, où il va mourir le 5 mai 1821. Comme si, mais ce n'est qu'une image, comme si sa fortune n'avait pu survivre au départ de Joséphine.